Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Et bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvel épisode de l'apérophonie sur Radio Campus sur le 90.8. Aujourd'hui, on est avec Cyril de l'association Pint of Science. Salut.
Bonjour.
Donc, cette association Pint of Science, c'est avant tout un événement ou plutôt une suite d'événements regroupés en mai.
C'est ça. En fait, on fait trois soirées de vulgarisation scientifique le 13, 14 et 15 mai dans les bars de Grenoble.
Et alors, c'est quoi exactement le concept de Pint of Science ?
Alors, l'idée, c'est de vulgariser un peu la science et d'emmener les chercheurs dans les bars pour aller discuter avec les gens et leur présenter un peu les recherches actuelles. Et tout ça dans un contexte assez convivial, autour d'une pinte dans un bar.
Et tu dis trois soirées, est-ce que c'est dans trois bars ?
C'est dans six bars, parce qu'en fait, on peut faire autant de bars qu'on veut, si tant est qu'on ait suffisamment de bénévoles et d'intervenants et d'intervenantes. Et donc, par exemple, nous, cette année, on a 17 intervenants, donc on est répartis dans six bars pour faire 17 soirées. En fait.
Ok, donc à chaque soirée, en fait, c'est pas un événement, c'est six événements, à peu près.
On peut voir ça comme ça, oui.
Et ça existe depuis quand, ça Alors, ce Pint of Science.
Ça existe depuis 2012 et ça a été né en fait en Angleterre par les docteurs Michael Motzkin et Pravin Pol, qui étaient des chercheurs londoniens et qui voulaient en fait ouvrir leur labo au grand public. Et comme c'est pas forcément hyper pratique, ils se sont dit bah on a qu'à aller à la rencontre directement des gens et donc d'aller dans les bars.
Où sont les gens
voilà. Où sont les gens à Londres? Bah dans les pubs.
Et donc après, ça a été amené en France.
C'est ça, ça a été amené en France par Élodie Chabrol, qui est la présidente de l'asso nationale. Et en fait, chaque ville a un peu son antenne locale. Donc par exemple, il y a Pint of Science Toulouse, il y en a à Grenoble, il y en a à Bordeaux, il y en a à Paris évidemment. Et puis dans d'autres villes de France aussi. Il y a plus de 25 villes de France. Ça va se faire dans 25 villes de France. Non, si. 25 pays, pardon, et 500 villes du monde, et 54 en France.
Waouh ! Mais donc, c'est pas que en France et en Angleterre, maintenant, ça s'est étendu de partout.
C'est partout dans le monde, enfin partout, presque partout dans le monde. Dès qu'il y a un peu de science et un peu des pubs, on peut y aller.
Et c'est toujours des chercheurs qui sont à l'initiative de ça, ou...
Alors, ça peut être le cas, mais en fait, généralement, c'est plutôt les membres de l'association qui viennent démarcher les chercheurs, qui viennent leur dire « Hey, coucou, est-ce que tu veux venir faire une conf dans un bar ?» Ils font disent oui ou non. Et s'ils disent oui, bah tant mieux. Et donc, dans ce cas-là, on organise tout ça pour qu'ils puissent venir montrer un peu ce qu'ils font aux gens.
Donc, on n'est pas obligé d'être chercheur ou dans le monde scientifique pour faire partie, pour être un bénévole de Pint of Science ?
Non, pour être bénévole, il peut y avoir tout le monde. Par exemple, on a des informaticiens, on a des gens qui sont effectivement en thèse, mais il y a n'importe qui peut venir. On peut avoir des fleuristes, si jamais ils veulent, ou des boulangers, ou je ne sais pas, n'importe qui peut venir. Ouais. Tant qu'il y a un petit intérêt pour la science et la bière, c'est quand même mieux, mais bon, c'est pas obligatoire.
Et toi, comment t'as découvert, par exemple
Je me souviens plus. Mais je crois que c'était à... Si, parce que c'est des gens avec qui j'étais en contact à l'époque où je faisais mes études, qui connaissaient dans leur labo, qui ont découvert ça, qui ont parlé de Pint of Science. J'ai fait « Ah ouais, c'est marrant comme concept ». Et puis après, j'ai redécouvert ça quand j'étais à Toulouse, puis j'ai re-oublié, et j'ai re-redécouvert ça en revenant à Grenoble après. J'ai fait « Ah bah oui, mais je pourrais être bénévole dedans, en fait, parce que c'est trop bien
ouais. ». Et t'as déjà participé à des événements
J'ai déjà participé en tant que bénévole, donc pour organiser... un peu l'événement, pour aider les chercheurs, pour aider à l'animation aussi, par exemple, ou pour accueillir le public. Donc, c'est comme ça que j'ai participé.
Donc, l'idée, en fait, c'est que les gens s'assoivent, se prennent une bière, et puis il y a des chercheurs qui leur font un petit PowerPoint dans le coin de la salle ou...
Alors, presque. Dans l'idée, il y a un peu de ça. Il faut quand même réserver ça. C'est un événement avec billetterie. Notamment parce qu'en fait, c'est à 2 euros l'entrée. Et donc, ça permet de payer un coût aux chercheurs ou aux chercheuses, de payer, par exemple, à manger aussi aux intervenants.
Un coût COUT ou COUP ?
Les deux. Les deux. Et j'ai oublié ce que je voulais dire.
Ouais, pardon, je t'ai interrompu. Tu disais que c'était à billetterie avec 2€ l'entrée.
Oui, c'est 2€ l'entrée, c'est histoire parce qu'on est à billetterie fermée et pour limiter le nombre de gens, parce que dans les bars, on ne peut pas faire rentrer 150 personnes non plus. Donc en général, on est entre 30 et 40 en fonction de la place du bar. Des fois, on peut descendre à 20. Voilà.
Pour que tout le monde soit bien installé.
Pour que tout le monde soit bien installé, bien entendu, qu'on est bien assis dans son fauteuil avec sa pinte dans la main, tranquille.
Et ça dure combien de temps ?
On est sur 1h30 à peu près. En fait, l'événement, il se passe en deux. Enfin, la soirée se passe en deux parties. Donc, il y a une partie, une première partie qui dure une vingtaine de minutes, qui est en général le thésard ou la thésarde du maître de recherche ou du maître de conférence. Ensuite, on fait une petite pause histoire de recharger les bières, de faire le quiz aussi, parce qu'on a un quiz qui permet de faire gagner des goodies, genre des t-shirts ou des tote bags, par exemple. Et ensuite, il y a la présentation du chercheur ou de la chercheuse qui va approfondir la première partie, ou pas nécessairement d'ailleurs, ça dépend.
Ouais, ça peut être des sujets un peu liés, mais pas tout à fait dans les mêmes thématiques.
C'est mieux si c'est lié. Alors, sur une soirée, c'est mieux si les thèmes sont liés. C'est même très fortement recommandé. Mais après, dans chaque bar, il y a des thèmes, il y a des thèmes assez variés.
Tu veux dire d'une soirée à l'autre ?
Enfin, sur une même... Par exemple, si on prend la journée du 13, le lundi 13, il y a une soirée, enfin, va y avoir une conférence sur, par exemple, les bancs de poissons, comment ils se forment, comment ils se déplacent et comment on modélise ça. Peut y avoir comment on peut évaluer notre mémoire pour l'améliorer. Peut y avoir aussi comment on peut prédire le climat en modélisant l'Arctique, par exemple. Et donc ça se fait tous le même soir, mais dans des bars différents.
Mmh, donc chaque bar a son ambiance.
C'est ça.
Et c'est quoi l'idée en fait de Pint of Science ? Pourquoi c'est intéressant ? Enfin, disons, est-ce que c'est pour toi d'utilité publique de faire ça ?
Alors d'une certaine façon, oui, parce que j'ai envie que les gens s'intéressent un peu plus à la science et qu'ils viennent la comprendre. Et donc c'est l'occasion aussi de voir l'envers du décor du monde de la recherche et pas que ce qui est présenté dans les médias, dans les médias normaux, dans les médias généraux. En fait, et d'aller directement au contact des chercheurs et de, des fois, pourquoi pas créer des vocations, on ne sait jamais, mais d'être, je sais qu'il y a certaines recherches qui ont l'air fascinantes et qu'on se demande, mais on fait vraiment de la recherche dessus ? Mais oui, on fait de la recherche dessus.
Mmh, de voir qu'il y a vraiment des gens qui travaillent là-dessus. Ouais, par exemple, j'avais été surprise parce que il y a des vulcanologues qui travaillent à Chambéry, alors que on se dit ici, pourquoi faire ça ici, quoi, mais... J'imagine que ça doit être comme ça pour plein d'aspects de la science.
Oui, c'est ça. Bah après, en fait, ils ont mis des capteurs sismiques, pour les volcanologues, ils ont mis des capteurs sismiques un peu partout, et donc ils peuvent étudier de manière informatique avec les données qui ont été prises sur le terrain. Ils les récupèrent sur les serveurs, et après, ils les utilisent, ils les exploitent pour faire les modélisations dont ils ont besoin.
Et ça, du coup, est-ce que ça s'appelle la vulgarisation scientifique ? Quand un chercheur explique à un public
Alors, ça dépend de son public. S'il explique à ses pairs, ça ne va pas être de la vulgarisation, au contraire. Par contre, si effectivement, il vient dans un bar pour expliquer aux gens en général comment fonctionne certaines recherches, alors dans ce cas-là, oui, c'est de la vulgarisation.
Ouais, parce que les gens qui arrivent, ils n'ont pas de prérequis, quoi.
Non, ils ne devraient pas en avoir non plus. C'est juste qu'ils ont un intérêt pour le sujet. Ils font « Ah ouais, c'est cool ». Et donc, ils viennent par curiosité, ils vont voir, ils font... Bon, alors des fois, on a la moitié du labo parce que c'est leur pote et qu'ils ont dit « Eh, viens voir ma conf », etc. Mais l'idée, c'est quand même de faire venir n'importe qui, de faire venir tout le monde, en fait.
J'ai l'impression qu'avec le mot « vulgarisation », il y a un peu une idée négative. Enfin, il y a un peu comme si c'était pour la plèbe, on va dire. Est-ce que c'est quand même pas trop... Enfin, c'est quand même intéressant, il y a quand même du contenu, quoi, ou...
Comment ça ?
Ben, j'ai l'impression que dans vulgarisation, ça fait vraiment... on va parler aux gros débiles. Et du coup, je me demande si... Est-ce que c'est pris comme ça ? Est-ce que c'est vraiment, genre, raconté pour les bébés, ou est-ce que...
Non, c'est pas à ce point-là non plus, parce que, s'ils n'ont pas l'habitude de l'exercice, les chercheurs peuvent quand même... Les chercheurs et les chercheuses peuvent donner des termes très spécifiques du jargon dans lequel ils sont habitués à baigner toute la journée. Mais l'idée, c'est pas de parler à des débiles non plus. C'est de
définir...
De faire en sorte que les gens s'intéressent à ce que les chercheurs et les chercheuses font.
En racontant vraiment ce qu'ils font.
En racontant vraiment ce qu'ils font. Bon, après, les termes techniques, évidemment qu'on les définit, mais l'idée, c'est pas d'être hyper technique et de parler à ses pairs non plus. Dear, I need to make you understand. It's black and white, each satellite is part of an expanding rubber band. And so, that's why it's turning in my mind. I think it's this, but then it's that. It's fine, I guess, it happens all the time. And so the moon just rolls around the earth. Yet they both just roll around the sun. You see, we're always part of something bigger than ourselves. I need the sun, I need the sun. I need the sun, I need the sun.
Et après cette petite pause musicale accompagnée par The Seasons, Copernicus, on se retrouve encore avec Cyril de Pint of Science qui nous présente l'événement qui aura lieu à Grenoble les 13, 14 et 15 mai.
C'est ça.
Avec au total, si je me rappelle bien, 60 conférences dans des bars différents.
17 à Grenoble.
17 à Grenoble, d'accord.
Parce qu'il y a un bar qui est fermé lundi, donc on peut en faire que 17.
Oui.
Sinon, on aurait fait
18. Sinon, ça aurait fait 6 fois 3, 18. Parce qu'il y a 6 bars différents.
Il y a 6 bars.
C'est lesquels ces bars-là où il y aura les conférences ?
Alors, on va avoir. Ils sont tous dans le centre-ville de Grenoble. On va avoir le tonneau de Diogène, la table ronde, le Note Beer, le Café du Nord, le Pub des Copains et les Bertom.
Trop bien. Et donc, des thèmes hyper variés dans chaque bar.
Des thèmes hyper variés, ça peut aller par exemple du papier recyclé, donc qu'est-ce qu'on fait du papier recyclé, comme ça peut aller à c'est quoi la monnaie et comment on l'utilise, d'où elle vient, à quoi ça sert, comme ça peut aller jusqu'à l'étude des exocomètes et des poussières d'astéroïdes.
Ouais, c'est très très large.
C'est très très large. On essaie de voir un peu toutes les sciences, mais donc les sciences de la nature et de l'univers et les sciences sociales aussi, Cette année, on n'a pas eu forcément de... On a de la neurobiologie, par exemple, sur comment peut-on soigner le cerveau avec de l'électricité. Mais on pourrait avoir des historiens et des historiennes, s'ils voulaient venir. On pourrait avoir n'importe qui, en fait.
Pas forcément des sciences dures.
Pas forcément des sciences de la nature et de l'univers.
Pardon, j'ai dit un mauvais terme.
Non, c'est pas ça, mais... Et disons que ça fait un peu, il y a les sciences dures d'un côté, les sciences molles, et personnellement, j'aime pas trop cette distinction, parce que la méthode scientifique, on peut l'appliquer un peu partout. Enfin, et donc, faire la distinction entre sciences sociales et les autres sciences, ou même l'histoire, j'aime pas trop, parce qu'ils font tous de la recherche.
Et comment vous faites le choix des conférences chaque année ?
On le fait pas, c'est-à-dire que en fait on envoie un formulaire d'application et puis on voit les gens qui veulent venir, qui veulent présenter et donc si on a assez d'intervenants, bah on prend tous ceux les premiers qui sont venus et si on en a pas assez, bah on essaye de repêcher ceux qui ont présenté par exemple il y a 2 ou 3 ans s'ils veulent revenir ou d'autres. On se débrouille.
D'accord, mais vous essayez d'abord de partir des personnes qui ont envie de partager avec le public.
C'est ça.
Est-ce que le milieu de la recherche grenoblois est réceptif à cet événement ?
Plutôt. Alors cette année, on a eu des petits problèmes parce qu'il y a eu beaucoup de désistements au niveau logistique ou des gens qui ont dit oui, et puis finalement ils se sont rendus compte qu'à cette date-là, ils n'étaient pas disponibles. Mais sinon, oui, ils sont assez réceptifs. Et même les gens aussi sont très réceptifs puisqu'on a quasiment toutes les soirées qui sont complètes, donc il n'y a plus de place du tout à Grenoble.
Ouais, le public est hyper réceptif. En même temps, Grenoble, c'est un peu une terre de sciences. Il y a plein d'écoles d'ingé,
C'est ça, un peu, on a un polygone scientifique, on a un campus très actif aussi.
Ouais, c'est aussi très étudiant, ouais.
C'est ça.
Et les bars, ils en pensent quoi ? Ils sont assez enjoués par l'idée ?
Ah bah carrément, quand on allait voir, on dit bah voilà, on est Pint of Science, on fait ça, ils font ah ouais carrément, je suis trop chaud, venez et tout, moi je vous ouvre le lundi aussi si vous voulez, il y a personne, je serai tout seul mais c'est pas grave. Ok, bah très bien, on est ravis.
C'est trop bien. Et donc pratiquement toutes les soirées sont complètes ?
Pratiquement toutes les soirées sont complètes. En fait les seules qui nous restent pas remplies encore, c'est les soirées en anglais. Parce qu'on fait aussi des soirées en anglais, donc il y en a 2. Qui sont plutôt orientés physique, notamment le pavage apériodique qui permet de détecter des ondes sismiques au niveau... alors je ne saurais pas trop expliquer, mais c'est ça, le pavage apériodique des quasi-cristaux. Et donc qui permettrait de détecter des ondes sismiques de la taille de la Terre.
C'est de la géologie ou c'est quoi comme...
Bah alors... Je dirais que c'est un mélange de physique quantique et un peu de sismologie.
Et de chimie. Mais alors,
comme ça, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Donc, il faut venir.
Cristallo. C'est dingue, ça. En même temps, c'est normal que... Enfin, ça a l'air de ne pas être accessible à tout le monde. Enfin, de pas... Je veux dire, déjà, le titre fait un peu peur, quoi.
Mais c'est parce que c'est en anglais. C'est un titre, effectivement, du milieu. Donc, on décrit très spécifiquement ce qui se passe. Mais en vrai, on a discuté avec les intervenants et ils sont cool et puis ils ont l'habitude de l'exercice, donc ça se passerait bien.
C'est où et quand ?
Alors celui-là, donc c'est au tonneau de Diogène le 14 mai et donc la deuxième conférence en anglais, elle est au Bertum et c'est le 15 mai, notamment sur des films fins. Donc comment on recouvre en fait certains matériaux de très fins films, par exemple par exemple, des objets neufs, on peut y avoir une espèce de couche un peu huileuse dessus.
De vernis un peu ?
Par exemple, un peu de vernis, ça c'est une couche fine. Et donc il va expliquer tout ça, à quoi ça sert, pourquoi on en met, qu'est-ce que... Voilà. Mais en anglais. Enfin, mais. Et en anglais.
Ouais. Trop bien. Et ben, donc ça c'est les deux conférences où il reste des places pour les personnes qui nous écoutent. Ça a l'air très intéressant. Et bien sûr, c'est accessible à tout le monde.
C'est accessible.
Ouais. Bah, tout le monde qui parle anglais, par contre.
Comprend. On n'est pas obligé. On peut le comprendre sans forcément bien le parler. Mais n'importe qui comprend l'anglais, oui, peut venir sans aucun problème. Les étudiants, les professeurs, les gens de la radio du campus, s'ils veulent venir, c'est très bien.
Et après, il y a des discussions avec les chercheurs ?
Il y a tout à fait des discussions.
Plutôt informelles ?
En fait, ça peut être les deux. Ça dépend un peu du choix de la personne qui présente. Ça peut être pendant pendant la présentation, si les gens ont des questions, ils peuvent la poser en même temps, ou alors ils peuvent décider d'avoir un moment après pour poser leurs questions, donc, par exemple à la pause, ou même rester à la fin de la soirée s'ils veulent continuer à poser leurs questions. C'est un peu au choix du présentateur ou de la présentatrice.
Super. Et bon, on vous invite les 13, 14 et 15 mai à participer à ces conférences qui ont l'air très très intéressante.
Oui, viendez, on sera bien.
Et surtout à rencontrer des personnes qui travaillent dans ces milieux-là, et enfin, c'est quand même une occasion unique de pouvoir leur parler, quoi.
Ouais, c'est l'occasion de découvrir des sujets absolument fascinants, par exemple la modélisation des bancs de poissons.
Voilà, moi c'est un sujet qui me fascine personnellement. Mais ouais, ça a l'air d'être assez, assez fou.
Et bah viendez, on sera bien.
Et bonne soirée alors à tous et à toutes sur Radio Campus.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.